France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Le grand tétra a perdu depuis les années 70, 80, 70% de son aire de répartition sur le massif jurassien, ce qui est gigantesque. Hein.
Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se rend bien compte de l'état de nos forêts et le grand tétra n'est plus du tout adapté, il ne pourra jamais s'en sortir. La question, c'est jusqu'où aller pour sauver un animal qui va disparaître, forcément, à quel prix ?
Le défi principal de ce projet de zone de quiétude, c'est d'arriver à mettre tous les acteurs autour de la table et que chacun réussisse à faire un petit effort pour préserver l'espèce grand tétra qui est un petit peu le symbole, mais surtout toute la faune sauvage qui est derrière.
Oiseau emblématique des forêts d'altitude, le grand tétra se raréfie dans les montagnes françaises. S'il se maintient dans les Pyrénées, il a disparu des Alpes. On en aperçoit encore quelques dizaines dans le massif du Jura, une poignée seulement dans les Vosges. Le grand tétra est le plus gros oiseau sauvage d'Europe, également connu sous le nom de grand coq de bruyère. Amateur d'aiguilles de pin l'hiver, de bourgeons au printemps et surtout de myrtilles, il vit dans les forêts de conifères avec un sous-bois riche en arbustes à baies. Plumage noir et sourcils rouges, le mâle chante, danse et fait la roue pour conquérir les poules. Mais cette impressionnante parade nuptiale, il est devenu très rare de pouvoir y assister. D'abord parce que cet oiseau forestier est de plus en plus dérangé par l'activité humaine et ensuite parce que son habitat se dégrade sous l'effet du changement climatique. Pour tenter de sauver le grand tétra, un plan national a été lancé, la création de zones de quiétude que les randonneurs, à pied, raquettes ou ski, sont invités à contourner, est censée lui assurer un peu de tranquillité. L'initiative la plus controversée a été prise dans les Vosges. Des oiseaux capturés en Norvège, où le grand tétra se porte bien, sont lâchés dans la forêt vosgienne. Le résultat pour l'instant n'est pas probant et des associations environnementales sont vent debout contre cette expérimentation. Elles multiplient les recours pour la stopper. Grand tétra, une protection qui divise, c'est un reportage signé Olivier Denray. Bonjour Olivier.
Bonjour Aurélie.
En France, c'est dans les Pyrénées que vivent la plupart des grands tétras. Ils sont encore environ 4000. Vous allez nous emmener là où le grand tétra est le plus en danger.
Oui, alors avant d'aller dans les Vosges, direction le massif jurassien, plus précisément la forêt de Champfromier, quatre communes se partagent cet espace boisé d'altitude. Champfromier, donc bien sûr, un village d'un peu plus de 700 habitants, mais aussi Giron et son domaine de ski de fond, la commune de Montange et celle de Chézry-Forens au pied du Crête-Chalam, l'un des sommets réputés de ce territoire de moyenne montagne. Les défenseurs du grand tétra, les collectivités locales et l'État ont depuis plusieurs années maintenant tracé sur une carte ce qu'ils appellent une zone de quiétude volontaire. C'est une bulle de tranquillité offerte au grand tétra pendant 6 mois de l'année. Un territoire à l'intérieur duquel tout à chacun est invité à s'abstenir de chasser, de couper du bois, de faire du vélo, du cheval, du ski ou de la marche en dehors des itinéraires balisés et autorisés. Il s'agit de donner sa chance à un animal fragile et farouche, un oiseau emblématique, vous l'avez dit Aurélie, sauf qu'une partie de la population estime aujourd'hui que les priorités sont ailleurs.
Notre invitée est Fanny Guillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue au CNRS, au Muséum National d'Histoire Naturelle, et vous avez coécrit « La sociologie de l'environnement », un ouvrage paru aux éditions La Découverte dans la collection Repères. Tout de suite, nous écoutons ensemble le reportage d'Olivier Denray qui commence au cœur de la forêt de Champfromier.
Donc là, vous m'emmenez voir une place de champ du grand tétra.
Non, pas du tout.
Je ne vais pas avoir cette chance.
Non, vous n'aurez pas cette chance. C'est vraiment, en fait, une place de champ. C'est l'endroit où les oiseaux se retrouvent une fois par an, pendant 2 à 3 semaines, pour la reproduction.
Vous en avez identifié combien de places de champ dans cette zone de quiétude volontaire que vous essayez, avec d'autres, de mettre en place ici, en forêt de Champfromier ?
Alors, historiquement, il y avait 2 places de champ. La première a disparu au milieu des années 2000, autour de 2008-2009. Il n'y avait plus assez d'oiseaux pour qu'elle reste dynamique. Et là, maintenant, il reste une seule place de champ. Et malheureusement, cette année, il n'y avait plus de mâles chanteurs. Donc, il n'y avait plus que des poules. Donc, ça signe le déclin, un déclin très très fort de la population, beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait, puisque l'année précédente, il y avait encore 2 coqs. Cette année, il n'y en a plus. Donc, c'est très rapide. beaucoup trop rapide en fait. Voilà, donc c'est vraiment pas bon signe. Fort heureusement, on a eu l'info il y a 2 semaines d'un jeune coq qui aurait été vu sur le secteur de la place de Champs. Donc ouf, mais il va falloir qu'il tienne encore 2 ans avant d'être sexuellement mature pour pouvoir se reproduire. Donc vu la situation, on n'est pas sûr du tout que ça soit possible. Le Grand Tétras, c'est un territoire d'une petite centaine d'hectares. Pendant l'hiver, il va réduire son territoire au maximum. 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, ça dépend, c'est variable. Pour réduire son activité et économiser son énergie, il faut bien considérer que le Grand Tétras, en hiver, il mange 80% d'aiguilles de sapin, 20% de bourgeons de hêtre. C'est très très peu énergétique, donc il a un équilibre énergétique, physiologique, très délicat à trouver. Il tourne complètement au ralenti. On ne peut pas dire que c'est une hibernation du tout, mais il tourne complètement au ralenti. En même temps, c'est un oiseau très farouche. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que la fréquentation humaine ne vienne pas créer une perturbation qui viendrait mettre en déséquilibre cet équilibre justement que la nature lui a permis de trouver avec cette alimentation disponible sur les forêts jurassiennes. Donc ça, ça court du 15 décembre jusqu'au début du printemps. Globalement, on va dire jusqu'au milieu du mois de mars, début du mois d'avril. À partir de cette période-là, on rentre dans la période printanière, où là, on est cette fois sur la période de reproduction. Donc bien évidemment, là aussi, les oiseaux sont ultra farouches. L'objectif, c'est vraiment de réduire la fréquentation au maximum. Et enfin, la dernière période, qui va courir du milieu du mois de mai, grosso modo, jusqu'à la fin du mois de juin, c'est la période de couvaison. La poule va pondre 6 à 8 œufs qu'elle va couver pendant 28 jours. Pendant cette période-là, le principe de survie du grand tétras est le suivant, c'est de dire les adultes d'abord, les poussins éventuellement ensuite. C'est-à-dire qu'une poule de grand tétras, si elle est dérangée sur son nid, elle l'abandonne. Donc la nichée est perdue, il n'y aura pas de reproduction pour cette poule. Et comme potentiellement elle niche jusqu'à la fin du mois de juin, en fait l'objectif c'est de réduire le risque de perturbation jusqu'à cette période-là. Donc on couvre la période d'hivernage, la période de reproduction et la période de nidification. Et encore une fois, effectivement le grand tétras est l'espèce la plus farouche qui existe dans les forêts jurassiennes. Et de ce fait-là, c'est le concept de l'espèce parapluie. On protège l'ensemble des espèces qui sont un petit peu moins exigeantes, mais qui vont profiter pleinement de cette protection aussi.
Comme Alexandra Deprat, qui a dédié une grande partie de sa vie à la protection de cet oiseau en voie d'extinction, les agents du Parc naturel régional du Haut-Jura, Jean-Baptiste Strobel et Emmanuel Lemke, militent depuis des années pour la création d'une zone de quiétude dans la forêt de Champfremier. 1500 hectares de tranquillité à préserver autant que possible pour espérer sauver cette espèce emblématique qui déteste être dérangée.
Ce site, on est là pour deux raisons, enfin plein de raisons. La première, c'est que on est à la croisée d'un chemin qui est utilisé pour la randonnée, la grande traversée du Jura, c'est une piste de ski de fond, il y a des VTT qui passent, voilà, absolument tout le monde. Et puis la route qui traverse le massif, qui devient une piste de ski de fond à partir d'ici en hiver. Donc ça c'est la première raison, la fréquentation. Et la deuxième, c'est qu'il y a pas mal de chantiers d'exploitation forestière un peu partout autour.
Le grand tétras a perdu depuis les années 70, 80, 70% de son aire de répartition sur le massif jurassien, ce qui est gigantesque. Aujourd'hui, il reste moins de 280 tétras sur l'ensemble du massif, du nord du Bugey jusqu'aux forêts du Haut-Doubs.
Le nord de Pontarlier, et puis il faut compter la Suisse, il ne faut pas oublier, on a un territoire frontalier, et en fait on partage la population, les tétras suisses sont les tétras français, sont les mêmes.
Donc 280 tétras, grosso modo.
Contre, c'est côté français.
Côté français, français. Alors ça on ne partage pas pour le coup.
Les comptages, chacun ayant sa responsabilité, et on ne le fait pas de la même manière, donc forcément on n'a pas les chiffres au même moment. Mais par contre les tétras, c'est sûr qu'eux, ils ne connaissent pas les frontières administratives. Pour l'instant, l'avenir du tétras dans le Jura est incertain, mais il n'est pas bouché, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être envisagées. Et parmi celles-ci, il y a cette question de tranquillité et cette question d'adhésion de toute la population qui vit sur le territoire, sur le principe de il faut lui laisser une place, il faut le laisser...
Une dernière chance, en fait.
Une dernière chance, on verra. Mais en tout cas, une chance, ça c'est certain, pour qu'on puisse avoir la fierté de garder ce patrimoine sur le territoire. Si vous vous promenez au sein du massif du Jura, vous verrez que le tétras, c'est un symbole. Mais du coup, ce symbole-là, c'est aussi quelque chose qui signifie qu'on est capable de garder des espèces qui sont importantes sur un territoire et qu'on est capable d'avoir une approche du territoire qui permet de concilier énormément de choses. Ici, on a évoqué qu'il y avait des pistes de ski de fond, il y a de la sylviculture, il y a de l'agriculture, enfin, il y a beaucoup d'activités qui utilisent les milieux naturels. il faut qu'on soit capable d'être un territoire où on peut utiliser ces milieux naturels tout en leur gardant une qualité importante.
Arrivée en février dernier dans la région, la nouvelle sous-préfète de Nantua trouve sur son bureau le dossier lié à cette zone de quiétude volontaire. Karine Garcin-Escobar prend vite conscience des enjeux, mais aussi des réticences portées par un tout nouveau collectif de citoyens. Dans l'urgence, elle organise une réunion publique à Montange, l'une des communes concernées. Elle fait salle comble. Karine Garcin-Escobar promet alors la plus grande transparence. Il aura tout de même fallu attendre 8 ans avant que l'information parvienne au grand public.
On cherche l'adhésion, on cherche la concertation et on cherche le compromis. Et ça, ça prend plus de temps que d'imposer. Ce qui nous a manqué pendant ces 8 ans, c'est la concertation grand public. On n'avait pas forcément d'interlocuteurs.
Mais c'est fou étaient... ça.
Ben oui, c'est fou. Mais en fait, au-delà des associations thématiques, nous n'avions pas d'interlocuteurs qui représentaient le grand public, le collectif de citoyens. S'est fait connaître à ce moment-là. Il a soulevé effectivement cette question en disant « Mais nous, on n'est pas autour de la table et donc on représente ces promeneurs, on représente ce grand public et on n'a pas l'info. » Donc ce sont les maires les premiers qui ont interpellé et qui ont ressenti ce besoin de faire une réunion publique. 15 jours après, on a notre comité de pilotage sur le sujet, qui est un comité de pilotage annuel. Et donc, après, seulement 15 jours après leur création, ils étaient autour de la table avec beaucoup de questions. Évidemment, en 2 heures de comité de pilotage, on n'a pas répondu à toutes les questions, mais on a fait montre de pédagogie, de transparence pour partager toutes les données que nous avions. Et nous avons pris date pour les associer également au groupe de travail. Je sais qu'ils sont inquiets et je continuerai à les rassurer. Et les riverains, au travers de ce collectif demain, ils sont aussi capables de dire jusqu'où ils sont prêts à aller pour protéger cet animal. C'est ça la question que je leur pose. C'est qu'il fait partie de ce patrimoine. Vous, citoyens, à titre individuel, jusqu'où vous êtes prêts à aller pour tenter de le sauver?
La sous-préfète de Nantua espère que tous les acteurs concernés par cette zone de quiétude volontaire accepteront de signer une charte de bonne conduite avant la fin de l'année. Un document officiel censé résumer les engagements des uns et des autres pour protéger le grand tétras en forêt de Champfromier. Cette charte-là, vous, si on vous la met entre les mains, vous la signez?
Non, pas du tout. Je ne la signerai pas. Je ne cautionnerai pas cette signature.
Je ne la signe pas. Ce serait comme de mettre mon doigt dans un engrenage. Il ne faut pas que, en signant cette charte, petit à petit, des portes se ferment et que cette zone se verrouille. C'est impensable. Mathieu Doucet, Chaiserand, enseignant à Bellegarde.
François Vallée, je suis Froméran, je suis ferblantier et je suis membre du collectif.
Alors, Ducret-Pascal, j'ai 63 ans, je suis retraité sapeur-pompier et je suis aussi un amoureux de la nature, de la montagne et tout ce qui en découle. J'ai pris un peu le train en route, puisque c'est la première fois que je viens à une réunion. Et si je ne connaissais pas François, j'aurais jamais su qu'il y ait un plan de protection, zone de quiétude sur ce massif. Alors que je suis propriétaire et que je suis usager de la montagne.
Vous êtes propriétaire de forêt ici?
Oui, et je n'ai jamais été averti de quoi que ce soit.
Ce que vous dénoncez, en fait, c'est l'absence d'information, de communication?
Totalement, oui. Totalement. Aucune communication. Je n'ai jamais été prévenu de rien du tout.
Vous avez combien d'hectares ici?
Oh, c'est pas en hectares, c'est pas si grand que ça, mais je ne sais pas exactement. Voilà. J'ai hérité une parcelle de mon père qui se trouve en plein milieu sur le plateau ici. Oui.
Vous m'avez donné rendez-vous à côté du chalet Cotin qui se trouve en bord d'une route, qui n'est pas une route goudronnée, qui est un axe de circulation, on va dire, qui passe en pleine forêt de Champfromier, qui relie votre village au plateau. Pourquoi cet axe-là aujourd'hui, il est important et qu'est-ce que vous mettez éventuellement dans la balance? Est-ce que c'est d'ailleurs du chantage ou pas de votre part?
Ah, surtout pas. Surtout pas, il n'y a aucun chantage, c'est qu'un constat et une nécessité, on a des besoins en fait. Ce chemin là, en pierre qui a l'air d'un chemin qui mène nulle part est quand même l'axe principal qu'emmènent les Champfromérans aujourd'hui chez leur médecin. Donc ça fait 30-35 minutes de route, le chemin n'est pas goudronné tout le long, et il y a une volonté politique de ne pas l'entretenir, ce chemin, justement pour protéger le grand tétras. Aujourd'hui on habite dans un désert médical, il n'y a plus de médecins dans la vallée, il n'y en a bientôt plus sur tout le bassin bellegardien. Et donc ce chemin, pour nous, il est nécessaire qu'il soit entretenu régulièrement et qu'il n'y soit pas incriminé comme fautif de la disparition du grand tétras.
Ça veut dire que cet axe-là de circulation, vous devez pouvoir l'emprunter grosso modo du mois de mars au mois de juin sans qu'on vienne vous dire non, on ne circule pas ici parce que c'est une zone de quiétude
Évidemment. Et
il faut préserver Évidemment. Le grand tétras.
Évidemment, bien sûr, c'est un droit quand même d'aller chez le médecin. Ce n'est pas par plaisir qu'on fait 30 km et par des petits chemins pour se rendre dans le village d'à côté. Après, cette forêt, elle appartient à tous les chanfroméens. Hein. Il ne faut pas oublier que tous les habitants de Chanfromier ont leur droit ici, et c'est cette liberté qu'on veut nous renier quand même. Le problème, il est sur le fond.
Quand vous parlez de liberté, c'est quoi? C'est la liberté d'aller et venir, par exemple, dans la forêt?
Bien sûr.
De l'exploiter comme bon vous semble?
Pas forcément l'exploiter, mais même de se promener dedans, en essayant d'enfants en forêt. Aujourd'hui, on a l'impression d'être pointé du doigt comme des terroristes écologiques, alors que ce n'est pas du tout ça. Et le but premier, en fait, l'intention de protéger le grand tétras est merveilleux. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se rend bien compte de l'état de notre forêt, de l'état de la nature ici, et le grand tétras n'est plus du tout adapté, il ne pourra jamais s'en sortir. La question, c'est jusqu'où aller pour sauver un animal qui va disparaître, forcément, à quel prix et à quel coût aussi. Parce que ça, le coût, on n'en a jamais parlé. Mais c'est comme le programme qu'il y a eu dans la forêt de Chanfromier avec les mises en place des caméras. Il y a eu 40 caméras installées pendant un an pour voir la pression humaine sur cette forêt de Chanfromier. Donc ça a duré un an et sur 170 000 clichés, il y a eu 7 pénétrations dans les zones très sauvages, c'est-à-dire hors sentier, hors route, voilà, d'hommes. Or, pour arriver à ces données-là, les personnes qui ont mené l'étude ont dû aller 7 fois sur chaque caméra pour remplacer les piles, pour voir les vidéos, pour poser les pièges vidéo. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même dérangé 280 fois le milieu par rapport à 7. Et en tirant cette conclusion-là, de voir qu'il n'y avait pas d'intrusion en fait dans ces milieux très sauvages, la conclusion qu'ils ont tirée, c'est qu'il fallait qu'ils continuent et qu'ils en remettent encore 65 caméras l'an prochain, alors que c'était prévu de le faire pendant un an. Donc il y a un moment où le scientifique, là, il est déconnecté d'un certain bon sens aussi, où il se rend plus compte que le problème peut être lui, et pas forcément toute la population autour. Aujourd'hui, on devrait plutôt mobiliser tous nos moyens dans la sauvegarde de cette forêt. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, elle a besoin de soins, elle a besoin qu'on lui accorde du temps, elle a besoin qu'on pense ses plaies. Et le problème de cette réserve, c'est qu'elle voudrait justement qu'on soit moins présent. Mais on ne pourra jamais sauver le grand tétras si la forêt n'est pas sauvée.
Vous avez l'impression, en fait, tous les uns les autres, que le jeu n'en vaut pas la chandelle aujourd'hui?
N'en vaut plus la chandelle. Le changement climatique est tel, et avance à une telle vitesse, que l'espèce s'est petit à petit disparue depuis 30 ans. Et c'est terrible à dire, mais il semblerait que l'espèce ne peut plus vivre dans l'état actuel, dans nos forêts de 1000 mètres, avec le climat qu'on a aujourd'hui. C'est factuellement terrible.
Oui, je ne sais pas si vous avez vu, mais il fait à peu près...
Ça, c'est une vraie lésine, c'est-à-dire une faille calcaire, en fait. Oui.
Voilà, là, on a un trou qui fait à peu près 80 cm de diamètre et on a du mal à voir le fond, mais je pense qu'il y a 7 ou 8 mètres de fond. Facile. Je suis Antoine Anastasie, je suis technicien forestier territorial à l'Office national des forêts.
Et bonjour, je suis Maxime Dagan, responsable de l'unité territoriale du Pays de Gex à l'Office national des forêts.
Alors effectivement, nous sommes en forêt communale de Chanfromier, en forêt publique. Et donc, je nous ai emmenés dans une parcelle qui est majoritairement recouverte d'épicéas qui connaissent un dépérissement assez fort depuis 5 à 6 ans. Et donc, devant nous, nous avons une grande partie du peuplement d'épicéas qui a complètement séché après des attaques d'un coléoptère qui s'appelle le scolyte. Le fait que ce dépérissement se soit intensifié ces dernières années fait que le changement est très rapide. Hein. On dépasse complètement le pas de temps de la forêt qui, d'habitude, s'écoule sur plusieurs décennies. Là, on est à l'échelle de quelques années. Et donc, les plantes, comme les arbres, comme les animaux, subissent ce changement de plein fouet. Le grand tétras, jusqu'à présent, ou en tout cas les effectifs de population qui chutent dans la région, nous montrent qu'il a l'air d'avoir du mal à s'adapter à ces changements très rapides.
Alors c'est principalement l'épicéa qui dépérit sur ce massif. Le sapin, lui, reste globalement en bonne santé. Et le grand tétras ne consomme pas du tout d'épicéa. Lui, il se nourrit uniquement des aiguilles de sapin ou de pin. Mais on n'a pas de pin sur ce massif. Donc d'un point de vue purement nourriture, le dépérissement de l'épicéa n'a pas d'impact direct sur la population de grand tétras. Par contre, le grand tétras, lui, ce dont il a besoin, c'est d'une strate herbacée très fournie, avec notamment de la myrtille, des hautes herbes pour qu'il puisse se cacher, élever ses jeunes au printemps, qui, eux, se nourrissent plutôt d'insectes. Et donc, finalement, la mise en lumière pourrait avoir un effet bénéfique à court terme, puisque toute la strate herbacée va profiter de ce bain de lumière qui est libéré par la mortalité dans l'étage supérieur et va prospérer. Par contre, dans un second temps, donc à moyen et long terme, la forêt va regagner sa place, entre guillemets, et des arbres vont remplacer la strate herbacée. Et c'est peut-être à ce moment-là que l'effet pourra être assez négatif sur les populations de grand tétras.
Quelle est la plus grande difficulté, selon vous, la mise en place d'une telle zone de quiétude volontaire ?
Je dirais que le plus difficile, c'est d'arriver à harmoniser les différents usages de la forêt. Donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de gérer à l'Office national des forêts, puisqu'on gère des espaces publics avec de nombreux usages différents. Vous pouvez avoir de la pratique, donc des cavaliers à cheval, vous pouvez avoir des cyclistes, des promeneurs à pied, des chasseurs, des naturalistes, des trailers. Et un de nos défis, c'est d'arriver à articuler tous ces usages de la forêt avec le plus d'harmonie possible. On a aussi tout l'aspect forcément production de bois pour alimenter la filière bois française qui est très important, et il faut bien que ces bois, on arrive à les mobiliser à une période de l'année. Donc on essaye de jongler entre la préservation de la biodiversité, les cycles biologiques de certaines espèces, les pratiques qui peuvent être intenses à certains moments, donc pratiques estivales ou hivernales, puisqu'on est aussi dans une forêt qui se transforme entre guillemets en station de ski de fond pendant l'hiver. Et donc je pense que le défi principal de ce projet de zone de quiétude, c'est d'arriver à mettre tous les acteurs autour de la table et que chacun réussisse à faire un petit effort pour préserver l'espèce grand tétras qui est un petit peu le symbole, mais surtout toute la faune sauvage et le caractère sauvage du massif qui est derrière.
Ce qu'on entend derrière nous là, c'est quoi ?
C'est une exploitation qui doit avoir lieu sur la partie privée, puisqu'on se situe sur une zone en limite de la zone de tranquillité envisagée. Et donc ce qu'on entend, c'est une exploitation sur des propriétés privées.
Si l'ONF gère quasiment la moitié de la forêt dans la zone directement concernée pour tenter de sauver le grand tétras, l'autre moitié appartient à une multitude de propriétaires privés. Véronique Jabouille travaille avec eux tous les jours. Elle est ingénieure pour le CNPF, le Centre National de la Propriété Forestière. C'est l'un des possibles signataires de la charte de bonne conduite voulue par la sous-préfète de Nantua.
Si le tétras est resté si longtemps sur ce territoire-là, c'est peut-être que les propriétaires privés, ils ont bien géré. Parce qu'on est dans un secteur où il y a une vraie culture forestière. Ce n'est pas le cas partout, mais ici, on a une vraie culture forestière. Et donc, les propriétaires, ils font de la futaie irrégulière ou jardinée ou à couvert continu, peu importe comment on l'appelle. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas dans leur habitude de faire des coupes rases. C'est vraiment une gestion qui est ancrée depuis des siècles dans ce système-là.
Et pour autant, la présence de cet animal périclite ?
Oui, mais est-ce que c'est dû qu'au forestier ? On perturbe tous ? Mais je dirais que l'exploitation forestière, ça fait des siècles qu'il se pratique. Et pour autant, de gérer une forêt et de couper du bois, ça n'a pas fait disparaître le tétras. Par contre, le tourisme et la fréquentation importante qu'il peut y avoir été comme hiver sur ces territoires-là, ça c'est quand même relativement récent, en tout cas à l'échelle de la forêt et de la vie animale. Après, si on veut mettre des réserves et des contraintes, à un moment, il faut les mettre pour tout le monde, pour que ce soit équitable. Quand on est dans d'autres secteurs, pas si loin de Champfromier, où on ne peut pas aller exploiter, mais on a les skieurs qui passent parfois même sur de la neige artificielle, l'équité par rapport à la préservation du tétras, elle est peut-être à revoir. Mais au-delà du grand tétras, de toute façon, il y a tout qui est en train de changer. Les forêts en local, elles sont en train de changer avec le changement climatique. De toute façon, si on continue sur la courbe à plus 4 degrés, les habitats, que ce soit forestiers ou autres, ils vont changer. Donc les forêts vont changer et tout va changer. La faune, la flore, tout va changer. Mais c'est la faute à tout le monde.
Les maires de Champfromier et de Giron sont évidemment partie prenante. Eux aussi défendent cette zone de quiétude volontaire tracée sur une partie de leur territoire. Jacques Vialon et Florian Moine envisagent d'ailleurs des arrêtés municipaux pour encadrer la pratique du bivouac en forêt.
Ça, c'est une zone qui a été identifiée, le belvédère des Avalanches, comme pouvant être un point de bivouac, hein, on a appelé ça comme ça. Voilà, et on essaye d'orienter les gens pour éviter qu'ils aillent perturber en plein cœur de la forêt la faune et la flore.
On a bien identifié qu'il y avait de la pénétration moteur, on va dire, sur certaines zones, donc des camping-cars, notamment depuis le Covid, où on a dit qu'il faut qu'on essaye de canaliser les gens, même si ce n'est pas un flux qui peut paraître très important, de les canaliser pour éviter justement que les gens se répartissent un peu partout sur la zone, et notamment au cœur du massif. Donc l'idée était de dire, oui, on ferait une zone bivouac, donc ça, tout ça
fait,
est remis.
Des endroits que vous auriez identifiés comme étant des endroits où il n'y a que là qu'on pouvait éventuellement stationner pour passer la nuit.
Oui, c'est ça l'idée. Hein. Après, c'est volontaire. Hein. Donc il n'y a aucune restriction qui est prévue derrière tout ça. Il n'y a pas de verbalisation. Voilà. On demande aux gens de se policer. On leur donne un certain nombre d'informations sur la fragilité de la zone et on leur demande de ne pas aller bivouaquer. Voilà. Celui qui va prendre son sac de couchage, eh bien, il le fera.
Oui, on est plus dans la responsabilisation, je pense, des pratiques que dans la sanction. C'est peut-être ça aussi qui dénote, c'est qu'on est une société qui déresponsabilise et nous, on fait peut-être l'inverse ici, on responsabilise et du coup, ça heurte un peu peut-être les consciences parce qu'ils se disent, il y a un loup.
C'est vous vrai vous dites, en fait, il vaut mieux ça qu'une zone de quiétude réglementaire.
Ah bah exactement, oui.
Parce qu'un arrêté de protection, un APB, un arrêté de protection de biotope, c'est ultra réglementaire et là, vous êtes verbalisé au moindre écart. Hein.
Alors essayons de montrer que dans le secteur, on est plus responsable que les autres en mettant en place cette zone volontaire, que tout le monde signe, hein, voilà, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un engagement maximum, général, de façon à ne pas arriver sur du réglementaire pur et dur, qui serait là beaucoup plus contraignant.
Sur un point de vue de la Roche-Fauconnière, sur la combe d'Orva, une combe qui va réunir deux roches. On a les roches d'Orva en face et les roches fauconnières de ce côté. Donc ça forme un cirque, le cirque d'Orva. Alors moi c'est Francis Quebulifon, je suis directeur de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, dans le département de l'Ain.
Si la mise en place de cette zone de quiétude volontaire devait échouer, qu'est-ce qui reste comme solution, comme possibilité?
Nous, en tout cas, on sera pour le passage au niveau réglementaire. Malheureusement, je dirais. Malheureusement pour tout le monde.
Vous militerez pour ça?
Oui, nous militerons pour ça, parce que chaque milieu protégé réglementairement permet de protéger la biodiversité. Et mis bout à bout, toutes ces zones réglementaires font qu'on a une biodiversité qui arrive à se maintenir un minima sur ces secteurs-là. Et nous, on a des études qui permettent de comparer la biodiversité en dehors et dans les zones réglementées. Et on voit que les oiseaux en particulier se portent beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux, significativement, sur les zones réglementées. Donc au bout d'un moment, il n'y a pas de secret. Quand on a une société qui ne laisse pas la place à la biodiversité, et bien derrière, l'outil réglementaire nous permet de faire respecter la biodiversité. Ce qui est désespérant, c'est de voir des personnes, des structures qui vont ne pas vouloir protéger une espèce en asphyxie. C'est ça qui est indicatrice de la société d'aujourd'hui. Et ce qui se passe sur le massif de Giron-Champfromier à plus grande échelle, c'est ça qui est désespérant.
En face de la forêt de Champfromier, sur l'autre versant de la vallée de la Valserine, la réserve naturelle nationale de la haute chaîne du Jura, la Suisse et le lac Léman sont juste derrière.
On se trouve devant une série de panneaux ici.
Oui, c'est ça. En effet, on est devant des panneaux qui permettent d'informer les usagers du site sur les opportunités et possibilités de randonnée, notamment.
Ce territoire bénéficie depuis longtemps d'un statut strictement réglementé pour sauvegarder le grand tétra et toute la biodiversité qui va avec.
De la faune sauvage du site. À l'exception de quelques sentiers spécifiquement balisés, il est interdit de déambuler ou de circuler en dehors de ces sentiers. Et dans le cas contraire, vous êtes en infraction et donc vous pouvez être verbalisé par les agents de la réserve naturelle, par la gendarmerie, par l'Office national des forêts, par l'Office français de la biodiversité et autres qui sont des partenaires sur les questions de police de l'environnement pour la réserve naturelle.
Alors, je m'appelle Johan Rosset, je suis le conservateur de la réserve naturelle nationale de la Haute-Chaîne du Jura.
Juste avant, vous parliez de sanctions. Sur votre veste, il y a marqué « Police de l'environnement ». Si je me mets à déambuler dans la forêt et que vous me prenez sur le fait, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, en fait, je vais vous faire part du fait que vous êtes en infraction au titre de la réserve naturelle et des zones de quiétude. Et je procéderai à une verbalisation pour déambulation dans un espace non autorisé, avec donc une amende qui s'élève à 68 euros. Et après, vous pouvez avoir des aspects liés à la récidive. Vous pouvez cumuler des infractions, par exemple, si vous promenez dans la zone de quiétude avec votre chien, si vous circulez avec un véhicule à moteur sur cet axe qui est interdit actuellement, ben, vous seriez également verbalisé. Donc oui, il peut y avoir des cumuls de verbalisation et ça peut aller assez loin. Imaginons que vous soyez en zone de quiétude à la recherche spécifiquement, par exemple, d'une espèce protégée ou du grand tétra. Eh bien là, vous pourriez avoir effectivement une procédure juridique qui serait menée contre vous.
Oui. Ça veut dire que ça peut se terminer au tribunal.
Tout à fait. Et sur les aspects police de l'environnement, nous sommes sous l'autorité du procureur de la République.
Mais pourquoi est-ce qu'il faut en arriver là aujourd'hui pour protéger un milieu naturel, pour protéger entre autres ici cet oiseau emblématique, le grand tétra ?
Étant donné la situation critique du grand tétra et le fait que ça soit une espèce qui soit quand même extrêmement sensible aux dérangements, etc., il est nécessaire de prendre des mesures complémentaires, supplémentaires, ce qui est valable pour d'autres espèces, hein, mais qu'on ne mesure pas suffisamment, et qui mérite de mettre en place des systèmes de protection plus importants, puisque les usagers n'ont pas toujours les comportements adéquats pour faire en sorte que leurs usages, leurs activités soient en adéquation totale avec cette biodiversité.
Vous avez compté le nombre d'individus ici, vous avez une idée de combien il reste aujourd'hui de grands tétras mâles et femelles de poules ?
Oui, tout à fait. Alors en fait, on a aujourd'hui 4 places de champ actives. Ça fait quand même une population sur l'ancienne de la Haute-Chaîne estimée, on va dire, à 33 individus, dont 22 reproducteurs, sur 11 000 hectares. Et donc, chaque individu compte pour la survie de l'espèce. Tant que les usagers au sens large ne prendront pas conscience que la nature ordinaire nécessite une certaine attention et que toute pratique finalement peut avoir une influence plus ou moins importante ou négative sur ce qui les entoure, sur des espèces, etc. Finalement, on se retrouvera toujours dans des situations où on va préserver des noyaux, certains secteurs, au détriment de tout le reste. Et en fait, en parallèle de ces espaces qui restent sauvages et qui sont somme toute préservés, il faudrait vraiment qu'on ait vraiment cette prise de conscience qu'il faut aller au-delà et plus loin sur nos comportements pour qu'on ne se retrouve pas uniquement avec des espaces qui soient réglementés et qui soient considérés comme sauvages parce qu'ils sont réglementés.
La protection du grand tétra ne se limite pas au massif du Jura. Plus au nord, à 4 heures de route, l'État et le parc naturel régional des Ballons des Vosges expérimentent depuis bientôt 2 ans ce qu'ils appellent un renforcement de population.
C'est notre combat, c'est celui-là, globalement.
Une opération coûteuse, vilipendée par de nombreuses associations environnementales, parmi lesquelles SOS Massif des Vosges, présidée par Dominique Imbert-Beretti.
Alors, 2 réintroductions ont eu lieu, donc la première il y a 1 an. 10 tétras avaient été capturés en Norvège. 1 est mort sur place au moment de la capture, ce qui arrive, hein, question de stress, etc. Donc 9 ont été relâchés. Moins d'un an après, il n'en restait plus que 2. Et donc ils ont réintroduit de nouveau cette année, il y a un mois ou deux, au mois de mai. Et ils ont réintroduit cette année, ils sont retournés en Norvège avec l'objectif d'en capturer 40 tétras. Et ils n'ont été capables d'en capturer que 8. 1 est mort encore au moment de la capture, donc ils en ont réintroduit, relâché 7. Et là, c'est même pas un an après, c'est 1 mois après, 2 étaient déjà morts. Voilà. Voilà la situation. Je pense qu'elle parle d'elle-même, on est en plein délire. Et le parc continue à dire que cette expérience est une expérience enrichissante qui leur permet d'apprendre chaque fois, etc. Ils n'apprennent rien du tout.
Vous comprenez cet entêtement du parc naturel, de l'État, en faveur de cette réintroduction de grands tétras venus de Norvège ?
C'est un programme national de réintroduction du tétra, qui est un programme national, le résultat de directives européennes et le résultat de conventions signées avec l'Europe. L'Europe finance pour la préservation, la restauration de la biodiversité. Et le tétra fait partie, évidemment, des programmes. Or, l'État a très peur d'être attaqué en justice pour défaut de moyens et pour non-action dans ce domaine. En réalité, il n'a pas fait grand-chose. Et là, il y avait urgence de montrer à l'Europe qu'on faisait des choses. Donc on a accéléré à marche forcée ce programme. Et la seconde raison, elle concerne le parc, qui lui doit renouveler son agrément en 2027 et puis établir un bilan de l'action réalisée. Or, cette action est désastreuse. Il n'y a pas d'autre mot. Le parc, depuis son existence, enfin depuis en tout cas cette charte-là, c'est-à-dire depuis 2012, pour nous, ce n'est pas un parc naturel, c'est un office de tourisme qui ne fait que développer, soutenir, voire même initier quelquefois des projets de développement, non pas touristique d'ailleurs, mais de développement des loisirs, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le territoire, sur fréquentation, destruction des sites, installation d'équipements qui n'ont rien à y faire.
La protection du grand tétra, la sauvegarde de cet oiseau, c'est un faux prétexte, un faux nez ?
Totalement. Il n'y a rien d'autre à dire.
Le groupe Tétra Vosges est lui moins virulent, mais son directeur Thomas Chevalier reconnaît avoir formulé dès le départ un certain nombre de réserves.
Aujourd'hui, sur les populations vosgiennes, c'est essentiellement des femelles.
Donc il n'y a plus de mâles en fait.
On n'a plus de contact de mâles depuis au moins 2 ans. Sur la zone de présence sur les Hauts-de-Vosges, on est sur 20-30 000 hectares à peu près. Tant qu'il reste des individus d'une population autochtone, on ne peut pas parler au sens strict de réintroduction. On a encore quelques individus de la population vosgienne. Donc c'est pour ça que dans le cadre du projet qui est porté par le PNR et l'ADREAL, donc les services de l'État, le terme retenu, c'est le renforcement.
C'est un projet que vous accompagnez, que vous soutenez, qui vous paraît judicieux, ou est-ce que vous émettez des réserves aujourd'hui ?
Alors, le groupe des travaux, j'en ai mis beaucoup de réserves sur ce projet-là, pas forcément sur le principe de renforcement d'une population de manière générale, mais plutôt sur la temporalité. Le scénario que nous, on avait proposé au moment des réflexions, c'était d'attendre un certain temps pour évaluer en fait quelles sont les causes de disparition de l'espèce, à quel point on est en mesure de les résorber ou non, se donner les moyens dans les quelques années qui viennent d'essayer de les résorber. Et si on y arrive, alors pourquoi pas tenter l'opération.
Quels moyens, par exemple, vous auriez souhaité mettre en place pour résorber cette disparition sans avoir à faire appel immédiatement à ce renforcement de population ?
Très concrètement, on va avoir une gestion forestière qui va consister notamment à créer des clairières, à réouvrir des zones qui se sont fermées, pour favoriser notamment la structuration en fait, de la forêt, la présence de myrtilles, qui est une ressource alimentaire indispensable pour l'espèce. Et donc ces travaux visent en fait à diversifier la structure de la forêt pour la rendre plus attractive au grand tétra et puis à la biodiversité de manière générale.
Donc ça, c'était une des réserves que vous avez formulées. Il y en avait d'autres ?
Il y avait des travaux à mener sur la quiétude et puis surtout de débaliser des sentiers, par exemple, sur des zones sensibles, de renforcer peut-être des statuts de protection sur certains espaces protégés pour garantir la possibilité pour le grand tétra d'accomplir son cycle avec un dérangement qui est minime. Et après, c'était se poser un certain nombre de questions sur les impacts indirects du changement climatique, en fait, sur l'évolution des habitats. Quelle sera la forêt dans les Vosges dans quelques dizaines d'années ? Est-ce qu'on aura toujours des conditions d'accueil propices au grand tétra par rapport à ses besoins ? Comment évoluent les autres espèces qui utilisent la forêt dans les Vosges ? Est-ce qu'elles augmentent, elles diminuent ? Quel impact ça peut avoir sur le grand tétra ? L'idée, c'était de se poser toutes ces questions-là, de peser un peu le pour et le contre de la faisabilité d'un renforcement. Et ensuite de lancer l'opération. Sur le moyen terme ou le long terme, il y a beaucoup de paramètres qui nous laissent penser que malheureusement, le grand tétra, qui est une espèce boréale, risque de ne plus trouver les conditions pour s'établir et s'épanouir dans le massif des Vosges. Donc c'est pour ça qu'on a affiché un certain scepticisme au début du projet sur les chances de réussite. Après, aujourd'hui, nous, on accompagne techniquement l'opération pour notamment le volet suivi. Et notre objectif, nous, aujourd'hui, c'est d'utiliser un peu les moyens qui sont mis à disposition pour améliorer la qualité des habitats forestiers, la quiétude de la faune sauvage et faire bénéficier ces mesures-là à tout un cortège d'espèces plus large que le grand tétra.
Pour répondre aux critiques et aux réserves, les responsables de cette opération de renforcement de la population grand tétra sont venus à Troyes. Rendez-vous pris sur les hauteurs de Gérardmer. Le premier à prendre la parole s'appelle Fabien Dill. Carte et documents statistiques en main, il est chargé de mission Natura 2000 pour le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Le suivi du grand tétra est au cœur de son travail.
Évidemment, on sait que c'est une espèce proie, vulnérable à la prédation. Et c'est un des enseignements qu'on a pu tirer du suivi. c'est que on nous avait opposé la cause du réchauffement climatique, de la surfréquentation, de la qualité de la forêt. Là, on se rend compte que les oiseaux, ils meurent souvent la nuit, dans des aires protégées, dans des habitats favorables, mais ils meurent d'attaques de prédateurs, notamment la martre. La martre est un petit carnivore qui peut grimper aux arbres et s'attaquer aux oiseaux quand ils sont le plus vulnérables.
Vous n'êtes pas venu tout seul? Il y a un représentant de la DREAL, vous allez nous dire ce que c'est que la DREAL.
La DREAL, c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. C'est un service de l'État, du ministère de l'écologie et de l'environnement.
Oui, et vous êtes?
Et moi, je suis Daniel Schnitzler, je suis responsable du pôle espace naturel Est au sein du service eau et biodiversité et paysage de cette fameuse DREAL. La démonstration au bout de 2 ans permet effectivement déjà de tirer des premiers enseignements, notamment la prédation, mais on tire aussi l'enseignement que les habitats favorables sont présents. Les oiseaux relâchés restent sur les secteurs, leurs aires de dispersion sont plutôt réduites, ce qui prouve bien une qualité d'habitat pour œuvrer en faveur de cette espèce.
Est-ce que c'est pas cher payé que de vouloir défendre cet animal aujourd'hui en voie d'extinction?
Cher payé.
On parle de 230 000 euros par an juste pour ce programme de renforcement, c'est un chiffre que vous confirmez?
Tout dépend de l'objectif qu'on garde. Est-ce que ces 230 000 euros sont clairement fléchés grand tétra? Ma réponse est clairement non, parce qu'on travaille sur des habitats, on travaille sur de la quiétude, on protège tout un cortège d'espèces, on protège tout un cortège d'habitats, et dédier de manière un peu dogmatique ces montants juste sur l'espèce grand tétra, je pense que c'est un biais assez considérable. Certes, aujourd'hui, on peut déplorer un déséquilibre par rapport à une présence de mésoprédateurs, mais ça fait partie de l'enseignement.
Je suis Olivier Claude, le directeur du parc naturel régional des Ballons des Vosges.
Si on ne peut pas parler d'échec, et ça on veut bien vous le reconnaître, ce n'est pas très probant jusqu'à présent ce qui se passe ici en termes de renforcement. Vous êtes bien d'accord avec ça?
Effectivement, on ne va pas dire c'est génial, c'est exceptionnel.
Tout pas de joie, quoi.
Tout marche bien, non, bien sûr que non, mais on reste dans une opération évolutive et assez expérimentale. Et donc c'est pour ça que le programme a vocation à durer sur 5 ans. Puisqu'on n'avait pas l'idée d'avoir la solution dès la première année. Donc, on a observé des choses, on a des réserves d'un certain nombre de partenaires. Nous, on pousse un peu, parce qu'on y croit, mais effectivement, on tient compte quand même des réserves sur lesquelles on attire notre attention. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on progresse.
Est-ce que vous envisagez une protection de l'oiseau par rapport à ses prédateurs?
Oui, forcément. Donc, on est en train de travailler aujourd'hui à la mise en place de protection des nids.
Qui ressemblerait à quoi?
Il y a des techniques de protection par ultration qui ont, par le jeu de fréquence, la possibilité d'éloigner certaines espèces, dont les prédateurs, qui ont l'intérêt d'être très localisées autour du nid, très temporaires, pendant la nichée, 20 jours, pour que au moins la poule soit tranquille avec les œufs et puis qu'on donne le plus de chances possible à la reproduction. C'est déjà une façon d'agir.
Retour en forêt de Champfromier, dans le département de l'Ain. Alexandra Deprat, qui dirige le groupe Tétra Jura, est elle aussi très réservée s'agissant de cette expérience tentée dans les Vosges. Elle confirme réfléchir à une autre piste de travail. Et l'hypothèse d'une insémination artificielle, c'est quelque chose qui est imaginable, envisageable, possible?
Envisageable et possible, oui. L'intérêt de ça, c'est que...
Ça veut dire qu'il faut, là, pour le coup, capturer les poules et les inséminer avec des paillettes?
Oui, oui, effectivement, mais par contre, ça évite le transport d'individus d'un autre massif où on sait que, là aussi, comme toujours, il y a un risque malheureusement de mortalité, ça s'est vu dans les Vosges notamment.
Donc, c'est là, une hypothèse sur laquelle vous travaillez, qui est envisageable ici par exemple?
Alors, c'est une hypothèse sur laquelle on va travailler. Pour l'instant, ça tourne dans les têtes de plusieurs d'entre nous. Il va falloir envisager toutes les options possibles, et à partir d'un certain moment, prendre une décision. Cette décision, elle va se baser sur les faisabilités, l'acceptation locale. Là aussi, on y revient. Mais si la population jurassienne au sens large n'est pas prête à faire plus d'efforts pour sauver le tétra, c'est pas la peine d'essayer de renforcer la population, on n'aura pas de résultat. On pourra être critiqué d'un point de vue éthique, d'avoir voulu être très... obstiné, oui, sur la conservation de cette espèce. Si on a toute la population humaine jurassienne contre cette approche-là, c'est pas la peine. À un moment, là aussi, il faudra admettre que le territoire n'est pas prêt pour ça. Et donc, c'est un échec, à nouveau.
tétra, une protection qui divise, un reportage d'Olivier Denray avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Fanny Guillet, sociologue au CNRS au sein du Muséum National d'Histoire Naturelle, est avec nous pour prolonger ce reportage. Alors, avant de vous faire réagir à ce qu'on a entendu, une précision, on parle du grand tétra comme d'une espèce thermomètre. Il est aussi présenté comme une espèce parapluie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous voulez bien nous éclairer sur ces deux expressions?
Oui, ce sont des concepts qui sont utilisés en écologie. Pour parler en général d'une espèce qui, dans une communauté, est l'espèce qui a l'aire de vie la plus large ou qui est l'espèce la plus sensible et qui va avoir donc besoin d'une qualité des écosystèmes la plus forte. Et donc, de par cette aire de vie large, elle va couvrir les autres espèces de sa communauté.
Et donc, c'est intéressant de la surveiller plus particulièrement.
Oui, en fait... En quelque sorte, on peut faire une analogie sociologique, c'est-à-dire que en étant espèce parapluie, l'espèce va être aussi un agent, un aiguillon en fait pour organiser la protection de la nature, et elle va aussi être le parapluie pour tout un réseau d'acteurs qui va investir énormément d'efforts pour connaître l'écologie de l'espèce, mais ce qui va conduire aussi à une connaissance très fine du territoire, à une présence importante sur le territoire, et donc ça va forcément bénéficier à l'ensemble de l'écosystème et de la communauté d'espèces.
Olivier Denray.
Alors justement, faire du grand tétra aujourd'hui, mais pas seulement, d'autres animaux emblématiques le sont aussi, faire du grand tétra un emblème, un étendard, est-ce que c'est pas finalement aujourd'hui une erreur? Il y a certains partenaires, par exemple, qu'on a pu entendre dans ce reportage, je pense aux gens de l'ONF ou même aux gens du Parc naturel régional du Haut-Jura, qui disent aujourd'hui qu'ils ont plutôt envie de parler de la biodiversité en général plutôt que de s'accrocher à cette espèce étendard. Peut-être est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin dans la simplification en termes de communication et du coup on arrive à quelque chose qui ne parle plus aux gens en fait.
Globalement, les espèces emblématiques, charismatiques comme ça, ça a globalement joué des rôles pour faire comprendre les enjeux de la conservation. Et c'est fréquent qu'on passe par des espèces un peu emblématiques comme ça pour faire porter des programmes qui finalement bénéficient à l'ensemble des milieux qui sont visés, mais que c'est plus facile d'en parler à travers une espèce que de la biodiversité en général.
En même temps, c'est réducteur.
Alors effectivement, là, on voit dans le cas du grand tétra que c'est à double tranchant, puisque les acteurs locaux comprennent bien que c'est une espèce en difficulté. Qui est menacée de disparition locale, on n'en est vraiment pas loin. Ça peut crisper des positionnements, et de l'incompréhension.
Alors, on l'aura compris, personne ne souhaite la disparition du grand tétra, mais il est difficile de s'accorder sur les mesures de protection. Est-ce qu'il y a un débat propre à cet oiseau, ou est-ce que ce genre de débat, en fait, il est classique à chaque fois qu'on parle de protection de la faune?
Alors, clairement, la conservation de la nature et la protection de la faune sont des opérations très complexes, et ça le reportage permet vraiment bien de le saisir, et d'ailleurs merci pour ce reportage qui est extrêmement riche et extrêmement qui montre bien à quel point c'est compliqué de s'attaquer à des dossiers de protection de la nature. Et on voit bien aussi dans ce reportage à quel point il y a un débat qui est très fort au sein de la communauté même des écologues et des naturalistes pour savoir de quel type d'approche mener, quelles sont les meilleures méthodes pour conserver l'espèce en elle-même et l'écosystème. Donc peut-être pour parler de ça, je peux proposer de se repérer par rapport à deux gradients. Qui est un gradient d'intervention, forte ou faible, et un gradient de protection par rapport aux pressions, aux impacts, forte ou faible. Donc, il y a un long passage dans le reportage qui porte sur la réintroduction du grand tétra dans les Vosges. Donc là, on est typiquement dans un exemple d'intervention forte. Alors, le cas particulier de ce programme de réintroduction, il est assez controversé, parce qu'en fait, c'est un programme qui a reçu un avis négatif de la part des instances scientifiques qui sont chargées de rendre des avis auprès du ministère ou des services de l'État en région. Et pourquoi il a reçu un avis négatif? Bah ça aussi, c'est mentionné dans le reportage. C'est parce qu'en fait, les conditions minimales de réintroduction, elles ne sont pas réunies. C'est-à-dire qu'il faut que le milieu soit déjà favorable à l'accueil de l'espèce pour qu'on puisse envisager un programme de réintroduction. Et donc, c'est en ça que les programmes de réintroduction peuvent être intéressants dans certains cas. C'est parce que ça permet d'organiser un travail sur comment on lève les pressions. Et dans certains cas, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à des opérations de réintroduction parce que l'espèce revient d'elle-même. Là, on voit que apparemment le PNR des Vosges a aussi, en parallèle d'une politique de développement touristique, qui semble incompatible en fait avec l'accueil de la population. Donc ça, c'est vraiment l'exemple typique de l'intervention forte. En face, il y a une approche qui semble faire le plus en plus d'intérêt. C'est la libre évolution, où là, on laisse, au contraire, la nature évoluer de façon spontanée. Donc en France, on a l'association ASPAS qui s'occupe de ça depuis une quarantaine d'années, mais c'est un mouvement qui est plus général. Il y a un programme européen qui s'appelle Rewilding Europe, qui promeut aussi ces approches. Donc ça, c'était pour le niveau d'intervention. Et sur les types de protection, ça aussi, ça tourne beaucoup autour de ça dans le reportage. On peut envisager, en gros, la protection de la nature, elle consiste à encadrer, limiter des pratiques humaines, des pratiques socio-économiques qui ont des impacts sur la nature. Et ça, cet encadrement, il va être plus ou moins fort. Et donc, dans les réserves ou dans le cas de la zone de quiétude volontaire, l'idée, c'est de limiter, voire interdire les pratiques humaines. Et donc, là, on est dans la protection forte. Mais après, il faut se rappeler que là, on parle de moins de 1% de la surface de l'Hexagone. Donc, on est sur des petits confettis qui vont être les cœurs de parc, des réserves gérées de cette manière-là.
Mais alors, une difficulté, on le perçoit à travers le reportage, c'est pour les randonneurs qui aiment la nature, qui viennent y trouver une bouffée d'oxygène, se ressourcer dans le calme. Ils n'ont pas du tout l'impression de la détériorer.
Oui, ça c'est aussi assez frappant dans le reportage, le fait que les usagers de ces espaces qui viennent justement parce qu'ils aiment la nature, ils ont du mal à prendre conscience qu'ils peuvent avoir un impact fort. Mais peut-être que pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut replacer ça dans les usages sociaux de l'espace qui sont globalement beaucoup intensifié dans le dernier siècle, c'est-à-dire qu'on a une urbanisation forte avec des métropoles qui concentrent une forte densité de population. On a des zones agricoles qui sont avec une agriculture intensive. On a aussi une conduite de la production forestière qui est relativement intensive. Et donc, forcément, les espaces de nature, ils sont réduits. Et puis, il y a une deuxième dynamique en parallèle, un fait sociotechnique majeur qui est la mobilité et le développement touristique, qui fait que les populations urbaines qui n'ont pas forcément choisi de vivre dans le béton, elles vont, dès que possible, se ressourcer dans la nature.
Et ça, elles veulent pouvoir le faire en toute liberté.
En toute liberté, bien sûr. Et on arrivait à un tel point de fréquentation et de pression sur les espaces naturels que, certains gestionnaires d'espaces naturels sont obligés de mettre en place des dispositifs de limitation. Donc il y a le cas du parc des Calanques qui maintenant on doit s'inscrire. Ça existe aussi aux États-Unis. C'est pas un phénomène local.
Mais du coup il y a cette question très très forte de l'acceptabilité des mesures qu'on veut proposer dans un premier temps, puis imposer dans un deuxième temps sur ces efforts qu'on est prêt ou non à consentir. En fait, c'est pas simple du tout.
Non, et c'est vrai que ce qui est frappant dans le reportage, c'est que le collectif de citoyens, il met d'abord en avant un droit au loisir. Et donc, ça fait porter un peu le sujet sur un plan moral. Est-ce qu'on peut opposer la survie d'une espèce à un droit au loisir local ? Et en fait, ce passage-là, il m'a beaucoup fait penser à la lettre à l'éléphant de Romain Gary, qui est un peu une synthèse de son livre « Les racines du ciel », où il explique que, en fait, si on n'est pas capable de laisser de la place à l'éléphant, donc c'est-à-dire à ce qui nous sert à rien, voire à ce qui nous gêne, c'est qu'en fait l'homme aura complètement liquidé son humanisme. Voilà, donc ça, c'est, ça date de 1956, donc je trouve que c'est une réflexion intéressante à avoir en tête. Et plus récemment, il y a un texte, un livre de Virginie Maris, qui est philosophe, qui s'appelle « La part sauvage du monde », qui défend aussi une idée qui va dans le même sens, de retirer notre emprise pour rien, en échange de rien, juste pour laisser la place à l'altérité et ne pas avoir un contrôle de 100% de l'espace et du vivant.
Alors, il y a des personnes qui défendent leurs droits, entre guillemets, il y en a qui défendent leurs besoins, comme par exemple la nécessité d'aller chez le médecin.
Oui, tout à fait. Cette question-là, on peut aussi l'aborder d'un point de vue plus sociologique, et c'est vrai qu'il y a cette histoire de route pour aller chez le médecin, donc on comprend qu'il y a d'autres enjeux sur le territoire, des désertification médicale, probablement un recul du service public. Et en fait, voilà, pour comprendre la réaction par rapport à cette zone de quiétude, effectivement, ça pointe le fait qu'il faut comprendre l'ensemble des enjeux qui traversent ce territoire. Et en sociologie, il y a une approche qui est tout indiquée pour ce type de problématique, et qui s'appelle l'approche centrée sur les inégalités environnementales, et qui est notamment portée par Valérie Deldrève et Jacqueline Candeau. Et elles ont un exemple qui est très parlant, parce qu'elles ont travaillé de longues années sur le parc des Calanques. Elle raconte comment l'administration, les associations, elles ont beaucoup milité pour qu'il y ait une zone de non-pêche. Donc elles ont travaillé auprès des pêcheurs professionnels, des plaisanciers. Ça a été difficile, ça a mis du temps, mais ça a fini par être accepté, approprié par les pêcheurs. Sauf que plusieurs années après, il y a l'usine métallurgique qui a vu se renouveler son autorisation à déverser ses boues rouges. Alors, avec des enjeux de dépollution quand même, mais qui a une autorisation à déverser ses boues rouges dans la mer, donc dans l'espace du parc. Et ça, en fait, ça a eu pour effet de provoquer un très fort sentiment d'injustice qui fait que les pêcheurs se sont désengagés de la zone de non-pêche. Donc, au final, cette inégalité perçue et vécue, elle a pour dernier perdant, en fait, les poissons et les écosystèmes. Donc vraiment, les politiques de protection de la nature, elles doivent se saisir de ces enjeux d'inégalité des efforts et d'inégalité aussi d'accès à la nature.
Et faire comprendre que le problème, c'est peut-être pas tant les contraintes environnementales qui sont nécessaires que le système dans lequel on se trouve et qui est un peu à bout de souffle, en fait, aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Et c'est en ça que l'ingénierie territoriale, toute l'animation territoriale qui est généralement assurée par des organismes tels que les parcs naturels régionaux ou les porteurs de documents d'objectifs Natura 2000, c'est cette présence au quotidien dans les territoires qui permet de tisser des liens, qui permet de gérer les conflits, parce qu'en fait, c'est forcément conflictuel. On a des vraies incompatibilités dans les différents intérêts de la société et les différentes activités socio-économiques. Et donc, c'est par ce dialogue et ces liens au quotidien qu'on peut arriver à faire progresser les choses.
Et l'État, il y a la stratégie nationale biodiversité 2030 qui traduit l'engagement de la France pour réduire les pressions sur la biodiversité. Mais est-ce que les engagements pris sont tenus ? Est-ce que l'État est à la hauteur par rapport à toutes ces thématiques ?
Alors, malheureusement pour les politiques environnementales, l'État est pluriel et il défend plusieurs politiques en même temps et elles sont, comme je le disais, pas toutes compatibles. Et c'est vrai que ces dernières années, on est plutôt dans une période de recul sur les enjeux environnementaux. Alors, qui fait suite aussi à une relative progression des enjeux environnementaux depuis le Grenelle de l'environnement. Mais là, c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu difficile qui se traduit par des nouvelles lois telles que la loi du plomb ou par une fragilisation des institutions. En ce moment même, avec les enjeux de réduction du budget de l'État, il est question de fusionner le Conservatoire du littoral et les structures de parcs nationaux au sein de l'OFB.
Merci Fanny Guillet. Le grand reportage de cette semaine, Grand Tétra, une protection qui divise, était signé Olivier Denray avec Annie Brault à la réalisation, à la technique Olivier Hernet et pour la documentation Christine Anzano. Pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.